Vous écoutez RFI, les 14h à Paris et Valence, 13h en temps universel. Le journal, c'est avec vous, Karine Bellicha. Bonjour Karine.
Bonjour, bonjour à tous. Des manifestations sont prévues dans plusieurs villes d'Espagne. 10 jours après les terribles inondations, la population demande des comptes. Et à Valence, les habitants exigent la démission du président de la région, Carlos Mazón. Il avait pointé les responsabilités de l'État et de l'armée. En retour, la presse a établi les propres responsabilités des autorités locales et elles semblent très importantes. Comment faire face au retour de Donald Trump à la Maison-Blanche? Beaucoup s'interrogent, notamment parmi les défenseurs de l'environnement. Certains États veulent faire contrepoids aux futures mesures du président élu, comme le New Jersey, qui a rejoint une coalition internationale à la pointe du combat. Et c'est dans ce contexte que s'ouvre lundi la COP climat à Bakou. Beaucoup de dirigeants ne feront pas le déplacement, pas forcément pour préserver leur bilan carbone, mais la conférence peut avancer sans eux, nous expliquera Jeanne Richard. En Espagne, la colère ne retombe pas après les terribles inondations qui ont fait 219 morts il y a 10 jours. 89 personnes sont toujours portées disparues dans la région de Valence. Le déluge de boue est loin d'être évacué. La reconstruction prendra du temps et les sinistrés ont toujours le sentiment d'avoir été abandonnés à leur sort. Le roi et le premier ministre, copieusement hués, en avaient fait les frais en déplacement dans la région il y a quelques jours. Les autorités locales sont aussi pointées du doigt. Des manifestations sont prévues comme à Valence ce soir pour réclamer notamment la démission du président de la région, Carlos Mazón. Celui qui accusait dans un premier temps les autorités espagnoles et l'armée de ne pas avoir réagi comme il fallait est désormais accusé d'être l'un des principaux responsables des défaillances après des révélations de la presse espagnole. Les explications de Romain Lemaresquier.
Au total, une quarantaine d'organisations sociales, civiles et syndicales ont appelé les habitants de la région de Valence à manifester pour dénoncer la gestion de cette catastrophe et réclamer la démission de Carlos Mazón, le président de cette région. D'autres manifestations sont également prévues dans d'autres agglomérations de la région. Après les inondations tragiques qui ont touché 80 localités de cette province et fait plus de 200 victimes, sachant qu'il reste encore un nombre très important de disparus. Carlos Mazón est au centre des critiques ces derniers jours, surtout depuis que la presse espagnole a révélé que le jour du drame, le président de la région déjeunait avec une journaliste au moment même où les inondations débutaient. Vilipendé la semaine dernière lors de la visite du chef du gouvernement Pedro Sanchez et du roi d'Espagne Philippe VI sur les lieux du drame, Carlos Mazón s'était alors défendu d'erreurs de gestion. Le lendemain, il accusait l'exécutif espagnol de défaillance et l'armée de ne pas avoir réagi à temps. Ce samedi, les habitants de la région contre-réclamaient sa démission. Les organisations qui ont appelé à ce rassemblement demandent aux participants de défiler pacifiquement dans le silence en respect aux victimes, un rassemblement au cours duquel les organisateurs comptent également réclamer des comptes, des informations véridiques et des ressources pour les victimes, selon l'un des responsables.
Alors que l'adaptation à la nouvelle donne climatique agite l'Espagne, de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, le retour de Donald Trump inquiète les défenseurs de l'environnement. Climato-sceptique déclaré, le président élu a promis de sortir de l'accord de Paris et de détricoter de nombreuses réglementations environnementales pour tenter de faire contrepoids. Les militants du climat s'organisent, certains États aussi. Le New Jersey a annoncé rejoindre une coalition internationale d'États et de régions en faveur du climat. C'est le premier à le faire depuis que les urnes ont parlé, même si d'autres États américains avaient franchi le pas lors du premier mandat de Donald Trump. Simon Rosé, bonjour.
Bonjour.
Mis bout à bout, ces États pèsent lourd dans l'économie américaine.
Oui, il y a tout d'abord cette coalition hétéroclite qui va de la ville de Sao Paulo au Brésil, à l'Écosse, en passant par le KwaZulu-Natal en Afrique du Sud et donc désormais le New Jersey américain. Le groupe Under Two, en référence à l'objectif de l'accord de Paris sur le climat de maintenir le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés, c'est une alliance d'États, de provinces, de collectivités qui s'engagent à poursuivre une forte action climatique et atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Aux États-Unis, le New Jersey est la 8e économie du pays et son adhésion porte à 17 sur 50 le nombre d'États américains à rejoindre cette coalition, un ralliement en réaction à l'élection de Donald Trump qui ne cache pas le peu de cas qu'il fait des enjeux climatiques. Avec parmi eux la Californie ou l'État de New York, ces États pèsent ensemble près de 46% du PIB américain. européens ayant leur sein le New Jersey, mais quant à lui en avance son objectif d'atteindre 100% d'énergie propre d'ici 2035.
Simon Rosé, chef du service environnement de RFI. Le retour de Donald Trump, il en sera question à Bakou où la COP climat débute lundi, mais sans les grands dirigeants. Joe Biden encore en exercice, Xi Jinping, Narendra Modi ou encore Emmanuel Macron ont déjà annoncé qu'ils ne feraient pas le déplacement. Hier, c'est le chancelier allemand qui a renoncé au voyage pour cause de crise politique dans son pays. Chacun a ses raisons, mais les délégations seront de toute façon mobilisées pour mener les discussions. Jeanne Richard.
En tout, quand même plus d'une centaine de chefs d'État ont annoncé qu'ils seront présents à la COP. Mais c'est vrai que cette année, plusieurs dirigeants importants ne vont pas faire le déplacement et les explications sont variées. Pour Xi Jinping, par exemple, c'est habituel. Il ne s'est pas rendu à une COP depuis 8 ans et il quitte rarement la Chine depuis la pandémie de Covid-19. Aux États-Unis, l'élection présidentielle monopolise l'attention de Joe Biden. Olaf Scholz fait également face à une crise politique en Allemagne. Lula, le président du Brésil, a lui des ennuis de santé et a annulé plusieurs rendez-vous internationaux. Quant à Emmanuel Macron, il évite l'Azerbaïdjan en raison de son soutien à l'Arménie dans le conflit frontalier qui oppose les deux pays. Bref, la COP fera donc sans leur discours et si ces prises de parole et les rencontres entre chefs d'État peuvent certainement donner une impulsion politique bienvenue pour faire aboutir des négociations toujours compliquées, elles n'empêcheront pas d'arriver à un accord de fin de COP. Les ministres et les diplomates de chaque pays, eux, sont bien présents pour mener les négociations.
De nouveaux avions sont encore affrétés aujourd'hui pour rapatrier les supporters israéliens toujours présents à Amsterdam après les violences dans la nuit de jeudi à vendredi en Italie. Malgré les mises en garde israéliennes à ces supporters, aucun incident n'a été signalé après le match de basket à Bologne. Il a opposé l'équipe de la ville au Maccabi Tel Aviv. À Gaza, l'offensive israélienne se poursuit encore ce matin. La défense civile annonce la mort de 14 personnes tuées dans 2 frappes israéliennes, l'une sur une école, l'autre sur un camp de déplacés. Les frappes israéliennes se poursuivent également au Liban. 7 personnes sont mortes dans un raid à tir. L'armée israélienne a aussi procédé à des frappes aériennes en Syrie, au nord, dans la région d'Alep. L'Observatoire syrien des droits de l'homme indique que ces frappes ont ciblé des installations militaires. Au Pakistan, un attentat revendiqué par des séparatistes baloutches a fait 26 morts, dont 14 soldats, sur un quai de la principale gare de Quetta, au Baloutchistan. C'est l'attaque la plus meurtrière depuis 6 ans dans cette province pauvre du sud-ouest du pays. Retour en France alors que les interrogations continuent sur le dérapage budgétaire. Les députés sont venus à bout la nuit dernière de la première partie du budget de l'État. Le texte initial du gouvernement a été largement remanié avec de nombreuses taxes. L'Assemblée doit encore le valider par un vote d'ensemble ce mardi. Le secteur aérien est largement mis à contribution. Les tarifs de la taxe sur les billets d'avion sur toutes les destinations vont augmenter, sauf pour les territoires français insulaires et ultramarins. Anne Verdaguer.
Voyager en avion devrait coûter plus cher au départ de la France dès le 1er janvier 2025. Si les députés ont limité cette hausse sur une durée d'un an, la taxe de solidarité va faire augmenter les billets d'avion en fonction des distances et des catégories des passagers. À titre d'exemple, elle passera en classe économique de 2,60 euros à 9,50 euros par passager et par billet pour une destination européenne et jusqu'à 40 euros pour les destinations lointaines. La classe affaires, elle, pourra être taxé jusqu'à 120 euros par billet pour les destinations lointaines. Les Outre-mer et la Corse sont exclus du dispositif. Le directeur général d'Air France a réagi, parlant d'un risque accru pour la compétitivité française, alors que les compagnies sont déjà fragilisées économiquement. Reste qu'en Allemagne et au Royaume-Uni, la taxe sur les billets pour les vols intra-européens est déjà quasiment 6 fois plus élevée qu'en France. En s'alignant sur le niveau de fiscalité pratiqué chez ses voisins, la France pourrait engranger 1 milliard d'euros supplémentaires en 2025.
Enfin, l'Allemagne célèbre ce week-end les 35 ans de la chute du mur de Berlin. Le 9 novembre 1989, après des semaines de manifestations, les barrières s'ouvrent. Des milliers d'Est-Allemands traversent pour rejoindre à pied ou à bord des fameuses Trabantes et découvrent l'Ouest, sa liberté et sa société de consommation. Des festivités sont prévues à Berlin. Des militants du monde entier ont été invités, comme le groupe punk russe Pussy Riot, bête noire du Kremlin, qui se produira devant l'ancien siège de la Stasi, la police secrète de la RDA. Voilà, c'est avec cette information que le journal se termine. Merci de l'avoir suivi. Restez à l'écoute de la Radio du Monde. Il est quasiment 14h10 ici à Paris.